Chapitre 4. Elsa.
Bonjour, docteur. Je suis désolée, hein. J'imagine que vous avez entendu mon échange avec ce type. Je tiens à ce que vous sachiez que ce n'est pas mon genre. Habituellement, je suis plutôt celle qui se laisse marcher sur les pieds en disant merci. Je me reconnais plus ces derniers temps. Depuis 2 mois et 1 semaine, très exactement. Avant, je gardais toujours mes émotions à l'intérieur, je les séquestrais. Elles n'avaient jamais vu la lumière du jour. Je ne sais pas pourquoi. Je ne me suis jamais posé la question. C'est ma nature, sans doute, une espèce de pudeur. Mais là, c'est comme si une porte s'était ouverte. Elle se sauve, elle m'échappe, elle se rue à la surface et hurle leur existence. Je ne me contrôle plus. Je ne sais plus faire semblant. Je pleure constamment, pour rien. La dernière fois, c'était en venant. J'ai vu un rouge-gorge sautiller sur le trottoir et ça m'a ému, ce bout de nature dans la grisaille, comme un signe de résistance. Je n'ai pas eu les yeux humides, non. J'ai versé des litres sur mes joues. Et ce n'est pas ça le plus gênant. Il y a la colère aussi. J'en veux à tout le monde, c'est plus fort que moi. Les voix, les bruits, les rires, la vie des autres m'agressent. Un volcan a émergé au creux de ma poitrine. Je l'entends gronder, je le sens bouillir. Il est en sommeil la plupart du temps, mais à la moindre contrariété, il entre violemment en éruption, la lave remonte par ma gorge et jaillit de ma bouche. Je ne peux pas lutter, c'est irrépressible. Elle est là, la nouveauté. Je déborde. Mon corps ne s'y laisse pas prendre. J'ai des poussées de psoriasis que je combats à coups de cortisone, sans grand succès. Mes émotions se faufilent par les pores de ma peau et forment des plaques disgracieuses sur mes bras, mon cou, mes genoux. J'ai remarqué que j'en avais davantage en ce moment. Je tiens ça de mon père, vous savez, le psoriasis. Il en avait souvent. Lui, il le traitait avec du vinaigre. Il traitait tout avec du vinaigre. Il n'était pas un grand lecteur. Pourtant, il possédait un livre épais comme un parpaing, vantant les vertus méconnues du vinaigre. Il en appliquait sur ses plaques de psoriasis, sur les piqûres de moustiques. Il l'utilisait pour détartrer les toilettes ou la bouilloire. Il en versait quelques gouttes sur un sucre pour faire cesser le hoquet. Il lui inventait même des qualités inexistantes. Un jour, je devais avoir 20 ans, je suis entrée dans la cuisine et j'ai surpris mon père en train de boire du vinaigre au goulot. Il m'a souri et s'est essuyé la bouche. Il a dû voir à mon visage que ça méritait une explication. « Je commence à avoir mal à la gorge », il m'a dit le plus naturellement du monde. « T'es allé voir le docteur ?»« Pas besoin », il a fait en me montrant la bouteille. « Papa, je doute que le vinaigre soit efficace sur les angines. C'est écrit dans ton livre. »«
Oui,
ils disent de se gargariser avec. » »«
Et donc tu le bois cul sec ?»
Il a haussé les épaules. « Ça peut pas faire de mal. » « Eh ben, je te souhaite de jamais choper une conjonctivite. » Il a éclaté de rire. J'entends encore son rire. C'est l'une des choses qui me manque le plus, je crois. Je ne parviens pas à me dire que je ne l'entendrai plus jamais. Ce « plus jamais » est insupportable. À 25 ans, je suis retournée vivre chez lui, après une rupture. Je viens de me faire larguer. Je quitte Toulouse, où je vis depuis 3 ans. Il me propose de revenir m'installer avec ma chienne et ma peine. Ma chambre est restée figée entre enfance et adolescence. J'y retrouve l'étagère en forme de pomme qu'il m'avait fabriquée dans du bois, mes livres de la bibliothèque verte et le poster du Grand Bleu qu'il avait demandé pour moi au cinéma. Il tient à me prévenir que je ne m'avise pas de laisser traîner mon bordel partout, il me connaît. Il ne sait pas de qui je tiens ça, certainement pas de lui. C'est pour la forme. Parce que je le vois bien, le sourire de celui qui est content de partager à nouveau ses boîtes de hachis parmentier devant les experts avec sa grande fille. Lui, c'est en 1992 qu'il s'est retrouvé en tête-à-tête avec son chagrin et qu'il a pris un chien. Il n'a pas refait sa vie après ma mère. Il disait que c'était par choix, qu'il ne supporterait plus de vivre avec quelqu'un, qu'il avait pris des habitudes de vieux garçon, qu'il aimait avoir le lit pour lui tout seul et l'entière jouissance de la télécommande. Je crois surtout qu'il n'a jamais réussi à remettre les morceaux de son cœur dans le bon sens. C'est peut-être pour que je m'en sorte mieux que dès mon arrivée, il se sent investi d'une mission, me faire oublier celui qui est passé de Stéphane à l'autre con. Il m'accueille avec un masque de monstre, il se marre de me voir sursauter à chaque fois, il me rejoint dans le salon avec des bouchons en plastique sur les yeux, il débite des jeux de mots affligeants, il dessine des conneries dans la buée de la salle de bain. Ça marche, il me fait rire. Vous comprenez, docteur, il tournait tout en dérision. La vie était son terrain de jeu. Sa dernière blague aurait été de partir à 69 ans. C'était pas la plus drôle. Il y a beaucoup de choses que je tiens de lui. Les orteils collés à la base, comme des siamois. Je l'ai découvert récemment sous le drap blanc. Sa démarche de grands pas presque bondit. Son nez. Oh, j'ai tellement détesté ce nez. J'ai même envisagé de me le faire refaire. Je n'y songe plus. Comme lui, je parle la bouche pleine pour ne pas oublier ce que je m'apprête à dire et je sursaute chaque fois que je croise mon fils dans la maison. Il m'a offert son amour des chiens, du monde, des arbres en fleurs et son incapacité à traiter le courrier en temps et en heure. Comme lui, je dis « bisous, bye » à la fin des conversations téléphoniques. Il m'a donné sa pudeur, quelques-unes de ses névroses et beaucoup trop d'honnêteté. Mais j'ai compris récemment une chose. Mon plus bel héritage est son sens de l'humour. C'est ce qui nous a rapprochés jusqu'au bout. C'est aussi ce qui me manque le plus aujourd'hui. Je tiens mon humour de mon père, et sans lui, je ne sais pas si je pourrais encore rire. Depuis, je me demande, pourquoi ne voit-on vraiment les gens que quand ils ne sont plus là ?